Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Si Vladimir Poutine va au bout de son prochain mandat et qu'il décide ensuite de raccrocher, il aura passé 24 ans à la tête de la Russie, soit comme président de la fédération, soit comme président du gouvernement. 24 ans, soit presque 5 fois plus longtemps que Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Alors pourquoi parler de Nicolas Sarkozy ? Il n'y a pas seulement parce que l'ancien chef de l'État aurait bien aimé prolonger l'aventure à l'Élysée, justement, mais aussi parce qu'à l'écouter récemment lors d'une conférence à Abu Dhabi, il ne semblait pas hostile à ces petits arrangements institutionnels qui ont permis à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir et qui vont permettre au Chinois Xi Jinping d'en faire autant à l'avenir. Pour Nicolas Sarkozy, le rythme imposé par la démocratie empêche de penser la politique sur le long terme. Trop de campagnes électorales, trop d'alternance. C'est ce qui fait, dit-il, qu'aujourd'hui, les grands leaders du monde sont issus de pays qui ne sont pas de grandes démocraties. Alors on peut voir dans cette affirmation une forme de provocation, mais elle n'est pas que cela. Le diagnostic sarkozyste correspond à une réalité, celle de démocratie illibérale, de démocrature, qui semble d'autant plus prospérer qu'elle ne séduise pas seulement les dirigeants, mais aussi les dirigés. Alors les grands leaders sont-ils nécessairement autoritaires ? C'est de cette question dont nous allons débattre ce soir en compagnie de deux des membres du club, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous enseignez à Sciences Po et puisqu'on est au Salon Livre Paris, je vais citer votre livre, Les Bûchers de la Liberté, publié chez Stock. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Macron, un président philosophe, ça c'est votre ouvrage aux éditions de l'Observatoire, il me fait un signe du pouce pour dire oui, c'est bien de l'avoir cité. On peut également parler du Tour du Monde des idées. Du lundi au jeudi sur France Culture à 11h53. Et puis un invité dans ce club, Pierre-Henri Tavoyau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne. Et puisque vous êtes invité, je vais en citer deux au lieu d'un. De mieux en mieux et de pire en pire. Ça, c'est le dernier, c'était chez Odile Jacob en 2017. Et puis, qui doit gouverner, une brève histoire de l'autorité chez Grasset en 2011. Ouvrage qui a évidemment un lien avec la discussion de ce soir. Alors, je vais reciter du Nicolas Sarkozy un petit peu plus en longueur. Il va falloir être un tout petit peu patient. Ça va prendre 20 secondes, pas davantage. Mais lors de ce forum à Abu Dhabi, on a eu justement des extraits grâce au journal Le Monde. Nicolas Sarkozy qui dit ceci. Les démocraties ont pu devenir des démocraties avec de grands leaders, De Gaulle, Churchill, mais les démocraties détruisent tous les leaderships. Comment peut-on avoir une vision à 10, 15 ou 20 ans et en même temps avoir un rythme électoral, par exemple aux États-Unis tous les 4 ans? Les démocraties sont devenues un champ de bataille où chaque heure est utilisée pour détruire celui qui est en place. C'est ce qui fait, là je me répète par rapport à tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands leaders du monde sont issus de pays qui ne sont pas des grandes démocraties. Alors je voudrais d'abord savoir si, tous les trois, vous partagez le constat final de Nicolas Sarkozy, à savoir que les grands leaders du monde aujourd'hui ne viennent pas des démocraties. Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, je partage assez ce diagnostic. Il y a une terrible concurrence aujourd'hui dans les régimes de la démocratie, effectivement, elle est illibérale. Le terme est important, c'est pas simplement les régimes illibéraux, mais les démocraties libérales. C'est des régimes où il y a en effet des élections, mais où les autres éléments de la démocratie ne sont pas présents. Donc en effet, je pense que c'est dans les régimes illibéraux que les dirigeants marquants sont les plus présents aujourd'hui.
Et quelques noms alors de dirigeants marquants ?
Poutine, Xi Jinping, voilà, qui sont les deux principaux pour au niveau mondial.
Anastasia Colosimo.
Je dirais que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut penser par exemple à Angela Merkel, et l'Allemagne est quand même un régime démocratique. Donc je dirais que c'est pas tout à fait vrai, même si évidemment il y a une tendance au leadership qui est beaucoup plus forte dans ce qu'on appelle un peu vulgairement les démocratures. Donc c'est un constat partagé, mais auquel il faut apporter quand même quelques modérations. Ouais.
Vous mettriez seulement Angela Merkel pour essayer de contrebalancer le constat,
il n'y en a pas d'autre. Non, on peut aussi penser au fait que Emmanuel Macron, là en tout cas en ce moment, incarne une forme de leadership et qu'il a été élu tout à fait démocratiquement dans un pays à peu près démocratique. On reparlera de tout ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Et surtout, la question de Sarkozy, c'est vraiment sur la durée, c'est sur le cycle électoral. Et effectivement, la démocratie remet un peu en jeu à chaque fois le cycle électoral, mais Angela Merkel, elle a réussi à se faire réélire quand même de nombreuses fois. Ça fait 13 ans qu'elle est au pouvoir en Allemagne, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de mener une politique assez cohérente sur ce long cours.
Alors, on va aller voir justement dans un instant en quoi le rythme de la démocratie peut être un frein parfois à des projets politiques qui sont des projets nécessairement sur le long terme. Mais je termine mon premier tour de table avec vous, Brice Couturier.
Écoutez, on est menacé par deux choses, effectivement. Les démocratures, d'une part, Pierre-Henri Tavoyau le disait, ce sont des régimes dans lesquels le suffrage universel s'exerce, dans lesquels il y a une multiplicité de partis plus ou moins respectés, mais où l'essentiel du libéralisme n'existe pas, à savoir, un, le contrôle constitutionnel, le fait et la division des pouvoirs. C'est les deux éléments essentiels que les démocratures ne respectent jamais, à savoir, par exemple, le pouvoir des juges. Les démocratures, à la Orban, à la Poutine, sont des régimes dans lesquels l'indépendance de la justice n'est pas respectée ou le contrôle de constitutionnalité ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ces gens nous disent « nous avons été élus par la majorité, nous avons tous les droits ». Ce sont souvent des démocraties jeunes ou des démocraties incomplètes avec une faible expérience historique de la démocratie. Mais nous sommes menacés par un autre phénomène qui sont les démocraties non libérales, c'est-à-dire des démocraties dans lesquelles, en réalité, la souveraineté du peuple est limitée de manière excessive par des instances internationales, par des juges internationaux, par des accords internationaux, par le droit aussi, et le pouvoir des juges. Donc nous naviguons en ce moment entre ces deux écueils, et ils sont difficiles à éviter l'un et l'autre. Moyennant quoi, votre question comporte l'idée que la durée de mandat d'un chef est une bonne chose en soi, parce qu'effectivement, il aurait le temps d'aller jusqu'au bout de ses projets. Moi, je pense que cette stabilité a un envers, et que cet envers, c'est l'immobilisme. On voit très bien que la Russie aujourd'hui est incapable de se réformer, par exemple, parce que Poutine est au pouvoir depuis 1999. On a vu passer 4, je crois, présidents des États-Unis depuis que Poutine exerce son mandat. Les États-Unis ont changé de façon extraordinaire, sous Obama aujourd'hui, sous Trump, n'en parlons pas. La Russie est restée la même, elle est figée. Ses problèmes demeurent, sa dépendance au pétrole et au gaz est extravagante. L'absence de réforme et l'envers de cette stabilité politique. Moi, cette stabilité politique ne me fait pas envie.
Alors justement, sur cette question de la durée des mandats, je cite encore Nicolas Sarkozy qui évoque Xi Jinping qui a fait passer une réforme constitutionnelle pour pouvoir se maintenir au pouvoir au-delà de ses deux mandats, en disant bah, c'est vrai que 10 ans, c'est pas assez. On comprend alors évidemment que Nicolas Sarkozy aurait bien aimé rester au moins 10 ans à l'Élysée, même s'il faut quand même aussi signaler qu'il y a une révision constitutionnelle qui a eu lieu en 2008, c'est-à-dire lorsqu'il était chef de l'État et qui limitait à 2 mandats consécutifs justement les mandats du chef de l'État. Donc peut-être qu'il regrette un petit peu d'avoir fait passer cette révision, mais en tout cas sur cette idée de la durée, Pierre-Henri Tavoyau, est-ce que ça vous paraît un critère pertinent pour penser l'action politique et l'action politique sur le long terme? Plus on attend, plus on peut diriger un pays et le réformer sur le long terme.
Il y a durée et il y a éternité. C'est deux choses différentes. Donc en Chine, on vise l'éternité, donc ça, faut se méfier. Mais cela dit, il y a quelque chose de vrai dans l'Empire chinois. Mais je pense que plus profondément, en fait, si on réfléchit à ce qu'est une démocratie libérale, ou même à ce qu'est le peuple de la démocratie. En fait, le peuple, c'est pas tellement une substance à trouver ici ou là, c'est plutôt une méthode. Et ce peuple de la démocratie, c'est une méthode qui a 4 moments, selon moi. Des élections, de la délibération, de la décision et de la reddition de comptes. C'est 4 moments. S'il en manque un seul, on n'est pas dans un système libéral. Par exemple, s'il manque l'espace de délibération, on n'est pas dans la démocratie libérale. S'il manque de la reddition de comptes, on n'est pas dans la démocratie libérale. Donc on peut faire une cartographie à partir de ces 4 critères des régimes mondiaux. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on adore les élections. Et là, je suis en accord avec Brice Couturier. On adore les élections et même on fait des élections avant les élections. Et bientôt des élections avant les élections pour... Voilà. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire
que les
primaires représentent de ce point de vue-là une exagération du modèle électoral. On adore la délibération, ou plus exactement la discussion, ce qui n'est pas exactement la délibération, je dirais peut-être tout à l'heure pourquoi. On adore la reddition de comptes tellement d'ailleurs qu'on voudrait passer, comme pour le bac, du contrôle terminal au contrôle continu. C'est-à-dire de demander et d'exiger des politiques, ils rendent des comptes tout de suite, même avant d'avoir fait les choses. On déteste la décision. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un moment qui manque dans les démocraties libérales. Et le grand défi, selon moi, des démocraties libérales, c'est non seulement parce qu'elles sont nées dans la lutte contre l'abus de pouvoir. Il faut se méfier d'une situation contemporaine où nous sommes en situation d'abus de contre-pouvoir. Et il faut, de ce point de vue-là, être un tout petit peu moins libéraux et plus républicains en défendant la décision, le rééquilibrage de la décision. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement être illibéral.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à faire un lien, Pierre-Henri Tavoyau, entre ces excès peut-être de libéralisme sur le plan politique qui constitue ces démocraties libérales et la tendance qu'on voit poindre et se développer de démocraties illibérales, c'est-à-dire qui se constituerait en opposition justement à ce phénomène-là.
Il faut vraiment faire l'histoire de ce concept de démocratie libérale. Donc l'inventeur est Farid Zakaria, qui est un politologue américain, mais plus profondément, il y a une situation inaugurale, qui est la situation de Singapour et d'un auteur qui est un auteur extrêmement impressionnant parce qu'il est en même temps un gouvernant, qui est Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour et qui est à la fois un intellectuel de très haut niveau et en même temps qui a été le président de Singapour de 65 à presque sa mort. C'est lui qui invente ce concept, qui le crée, qui le constitue, et c'est grâce à lui, d'une certaine manière, par son imitation, que la Chine de Deng Xiaoping a fait sa transformation. Donc c'est un auteur qu'il faut regarder de très près parce qu'il est très spectaculaire. En 65, Singapour, c'est rien. Pas de ressources en eau, pas de politique, rien du tout. Totalement dépendant. Et en 5 ans, ça devient une des premières puissances, un des premiers PIB, une des premières éducations. Et c'est le modèle de la démocratie. Et quand aujourd'hui on parle de démocratie libérale, tous les dirigeants d'Orban, de Poutine, d'Erdogan, de Xi Jinping, qui a passé 15 jours avec Lee Kuan Yew avant son règne, se réfèrent à ce modèle-là, qui est un modèle très impressionnant parce qu'il a formidablement réussi dans l'émergence.
Alors c'est bien la preuve qu'en tout cas on peut trouver des contre-exemples à ce que vous disiez tout à l'heure, Brice Couturier, sur le fait que en démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel on a peut-être davantage de temps qu'en démocratie, on peut faire un certain nombre de réformes qu'on ne pourrait peut-être pas mener si on était soumis au rythme électoral assez frénétique qui existe aujourd'hui avec ces élections officielles et puis ces élections intermédiaires que sont notamment les primaires.
Oui, mais il y a la gestion et puis il y a la décision. À l'instant, Pierre-Henri Tavoyot disait « on déteste les décisions en démocratie ». Ça me semble absolument décisif parce que vous posiez la question « qu'est-ce qu'un chef ?». De Gaulle avait posé cette question dans le fil de l'épée et il répondait de la manière suivante. « Le rôle du chef, savoir apprécier les circonstances dans chaque cas particulier, dans les moments de crise soudaine, dans les heures tragiques où la rafale balaie les conventions et les habitudes, les chefs sont indispensables, ils seront le suprême recours par leur caractère exceptionnel. » Donc il me semble, moi, que le rôle du chef, c'est précisément quand le débat s'éternise, quand les rivalités se neutralisent mutuellement, quand la droite et la gauche empêchent le mouvement, se dresse quelqu'un qui prend la décision. Et c'est ça le rôle du chef. C'est pas de durer, c'est pas être Louis XIV. Louis XIV a eu, on s'en souvient, hélas en France, un règne exceptionnellement long. Et ce règne s'est terminé de manière catastrophique pour le pays. Donc la continuité n'est pas un critère. Par contre, j'ai trouvé chez Balthazar Gracian exactement la même idée au XVIIe siècle en Espagne. Le chef, dit Balthazar Gracian, dispose de l'autorité. C'est l'autorité d'un bref qui abrège les débordements volubiles de la réflexion. C'est en espagnol, ça doit être beaucoup plus beau, mais je ne sais pas le citer. Mais voyez l'idée. L'idée, c'est qu'il y a un moment, il y a le moment de la décision, il y a le moment de la réflexion, de la délibération, et ça fait évidemment partie de la démocratie. Mais il y a un moment où il faut trancher. Et le rôle d'un chef, c'est ça.
Bon, on va dire que c'est moi le chef de l'émission et je tranche, je donne la parole à Anastasia Colosimo pour savoir si elle partage justement ce point de vue-là.
Je ne connaissais pas Brice Couturier aussi schmittien.
Ah, je ne suis découvre. Pas du tout
schmittien. Bah, la
je
décision, la délibération impine oui. du Parlement.
Enfin, mais chaque nouvelle émission nous permet de découvrir un nouveau Brice Couturier.
Une nouvelle facette. Je pense qu'il y a quand même un petit travail qu'on n'a pas fait et qui est assez essentiel, qui est d'essayer de définir un tout petit peu, avant de parler même de démocratie, etc., de dire ce que c'est la démocratie. Je pense qu'au plus large, on peut dire que c'est le gouvernement par le peuple pour le peuple, et que du coup, ça nous emmène sur deux problèmes, à mon avis, qui sont pas du tout les mêmes, même s'ils s'entrecroisent. Je dirais qu'il y a un problème qui est un problème structurel, qui est un problème de théorie politique, qui est un problème qui n'est pas du tout un problème nouveau. Il y a un problème au sein de la démocratie. Quel est ce peuple qui doit gouverner? Comment est-ce qu'il doit gouverner? Est-ce qu'il doit être représenté ou non? Ces problèmes, ils existent de manière formidable déjà chez Platon et chez tous les autres philosophes. Et il y a un problème conjoncturel. Et ce problème conjoncturel, je pense qu'il est tout à fait lié à l'invention de la démocratie libérale. Et là où j'apporterai un peu d'autres éléments, c'est que la démocratie libérale, c'est pas seulement le protocole démocratique. C'est aussi un certain nombre de valeurs libérales, à la fois économiques. Donc c'est aussi... Les démocraties libérales portent la loi du marché comme valeur, et d'un point de vue sociétal, c'est la défense des minorités et la défense de l'individu. Et ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui, à mon avis, aussi est décisif dans le fait qu'il y a des démocraties illibérales, des démocratures, mais aussi qu'il y a des très grandes forces en Europe, hein, qui se prononcent contre la démocratie. C'est le cas en France du Front National, de l'AFD en Allemagne, du mouvement 5 étoiles en Italie, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que ces démocraties libérales, premièrement, les valeurs qu'elles portaient étaient des valeurs contre lesquelles on avait parfois peut-être envie de se battre, que la loi du marché était une loi qui excluait beaucoup de monde, mais aussi que les droits de l'homme, le droit des minorités, etc., créaient une sorte aussi de culture un peu globalisée. Et on parle un peu négativement du repli identitaire, mais la question de l'identité, elle est au fondement même de l'État, elle est au fondement même normalement de la démocratie, parce que quand le peuple gouverne, c'est quel peuple qui gouverne et pour quel peuple celui-ci gouverne. Donc je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on peut un peu saisir aussi le fait que tous ces mouvements illibéraux sont fondamentalement illibéraux, mais parfaitement démocratiques, puisque tout le discours, en fait, de ces illibéraux, c'est justement de dire « mais le pouvoir du peuple a été confisqué par des oligarchies, le monde des affaires, les services secrets, les médias, etc. » Et donc, de redonner le pouvoir au peuple, c'est aussi d'avoir un moment démocratique qui n'est pas un moment libéral.
Donc, s'il y a une crise des démocraties libérales qui permet aussi d'avoir des contre-exemples, des contre-propositions que sont ces démocraties illibérales ou ces démocratures, c'est pas seulement une crise du fonctionnement démocratique, mais c'est aussi une crise des valeurs qui sont portées par ces démocraties libérales. Pierre-Henri Tavoyot.
C'est une crise. Je pense pas, parce que disons que la référence, vous prenez l'Europe, même le monde en 1750, il y a pas de démocratie. Aujourd'hui, tout le monde est démocrate, tout le monde. Même le tyran le plus sanguinaire, il va se dire démocrate parce qu'il va agir au nom du peuple. Les démocraties populaires. Quand même, l'expression est formidable, démocratie populaire. Donc tout le monde est démocrate, simplement évidemment pas de la même manière. Et même l'Iran est démocrate. C'est une théodémocratie. Si on fait un panorama des régimes actuels, on a quatre types de régimes, me semble-t-il. On a les démocraties libérales, on a une revendication, mais qui est incarnée dans quelques pays ou dans quelques régions, qui est la démocratie radicale. C'est l'idée qu'il n'y a pas assez de peuple et il faut, disons, limiter le kratos pour augmenter le peuple. Et donc, c'est la démocratie participative, c'est des revendications qu'on a ici. L'exemple typique, c'est la Californie, qui est d'ailleurs, à mon avis, un État totalement ingérable, parce que c'est des référendums à l'infini.
Démocratie participative, tiens, une expression qu'on n'entend plus beaucoup depuis quelques mois.
Non, justement, c'est intéressant. Je vais y venir dans un instant, parce que troisième modèle... Alors, si, la démocratie participative, c'est intéressant, parce que l'idéal... C'était de dire, oui, on peut pas faire, au 18e siècle, on peut pas faire de démocratie directe parce qu'on est dans un grand pays, on peut pas être en contact. Et puis, il y a eu un moment, on a inventé Internet. Et on s'est dit, mais si, on peut faire une démocratie directe parce qu'on va là, on va être tous en lien, tout le monde va pouvoir décider, tout le monde va pouvoir donner son avis. Et puis, depuis deux ans, il y a un truc qui s'appelle le désenchantement d'Internet. On s'aperçoit qu'un espace public ultra ouvert, c'est formidable, mais c'est pas forcément un bon service à rendre à la démocratie. Parce que précisément, plus on est ouvert, plus on est faible. Et on affaiblit notre espace public par rapport aux rumeurs, par rapport aux manipulations. Et ça, ça crée un très grand affaiblissement. Ce qui fait que, effectivement, les partisans de la démocratie participative sont aujourd'hui un peu plus discrets parce qu'ils se disent, finalement, il y a quand même des risques et des forces qui sont très dangereuses. Je finis ma typologie. Démocratie illibérale, on en a parlé. Et puis la théodémocratie. Et la démocratie libérale, c'est de dire il y a pas assez de kratos et il y a trop de démos. Il y a pas assez de pouvoir et il y a trop de peuple. Donc calmons ça et trouvons des leaders. Et puis le quatrième, c'est la théodémocratie, qui est une sorte de monstre. Bon, prenons l'Iran comme exemple, mais qui dit grosso modo, oui, il y a du kratos, oui, il y a du démos, mais tout ça n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que c'est le marché, c'est le consumérisme, c'est la bureaucratie, et il faut redonner un sens, et ce sens ne peut être que transcendant. Voilà, je crois, les quatre modèles. Et le grand défi des démocraties libérales, c'est de prendre en charge les critiques, les concurrences de ces trois modèles. Il faut remettre un peu de pouvoir, il faut remettre incontestablement un peu de démos, et il faut remettre du sens, sinon, effectivement, ce beau modèle de la démocratie libérale va être un peu déstabilisé.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, et j'abonde dans votre sens sur l'aspect conjoncturel, qui est que, à mon avis, ce qu'on vit en ce moment, c'est exactement le fait que, par ailleurs, les élites n'en veulent pas trop du démos. Je pense que ce qui se passe, et ce qui est très intéressant, c'est ce que Christopher Lash appelait la révolte des élites. Et on est arrivé à un point où en fait les élites étaient très contentes de représenter le peuple tant qu'elles faisaient à peu près ce qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, le peuple, tout d'un coup, le peuple la regarde, ou plutôt les élites regardent le peuple et voient que ce peuple il pue, il pense pas comme il faut, il aime pas le marché, etc., etc., etc. Et je pense que ce qu'on vit nous, en tout cas en Europe, et la levée de bouclier qu'il y a du peuple, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que c'est les élites qui sont mécontentes et c'est pour ça qu'il n'y a plus de démocratie participative. Parce que quand on laisse parler le peuple et quand le peuple s'exprime, ça donne des choses que nous, on n'aime pas. Ça donne l'élection de Donald Trump, par exemple.
Mais il faut savoir
ça
qui
donne l'AFD,
est
ça donne le
mouvement
5.
Qui est le peuple?
Bah, le peuple, c'est le peuple, par exemple.
Ça sera le titre de mon prochain bouquin, je le dis en passant.
Non, mais bien sûr, vous voyez bien que, par exemple, dans le cas de l'élection américaine, c'est particulièrement sensible. Il y a eu quand même un débat qui était surréaliste, qui était, mais quelle est la légitimité de Trump alors qu'il a été élu démocratiquement? On n'a jamais remis en cause l'élection d'un président américain. Mais comme Trump ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait d'un leader, pour le coup, démocratique, libéral, on a remis en cause le peuple, et c'est le mépris du peuple qu'on a senti là.
Mais on peut avoir une légitimité démocratique sans pour autant qu'on adhère à tout ce que fait un leader une fois qu'il se retrouve au pouvoir. Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est parce que les démocraties libérales sont affaiblies aujourd'hui qu'il y ait si peu de réactions, justement, par rapport à ces atteintes aux grands principes de la démocratie? Il y a des atteintes qui existent aujourd'hui en Europe, en Pologne, en Hongrie, mais en Chine, par exemple, quand un Xi Jinping envisage justement de gouverner à vie, on ne les entend pas beaucoup, ces démocraties occidentales. La diplomatie des droits de l'homme, par exemple, qui était quelque chose qui était quand même un exercice quasi imposé il y a quelques années, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui a disparu. Et même les propos de Nicolas Sarkozy, alors même s'il y avait sans doute un petit peu de provocation, Brice Couturier, dans ses propos, mais ça n'a pas... entraîner de réactions d'indignation comme on aurait pu s'y attendre il y a quelques années encore.
Oui, parce que c'est disqualifié comme néo-conservative. Hein, maintenant, aussitôt qu'on parle des droits de l'homme chez les autres, on est qualifié de néo-conservateur et on nous reproche de vouloir aller installer la démocratie
avec des baïonnettes. Non, mais disons que la diplomatie des droits de l'homme, il n'y a pas que des bons...
C'est plus la mode. Mais je voudrais insister sur quelque chose de nouveau, de vrai, véritablement nouveau et d'extrêmement préoccupant. Un politologue américain qui s'appelle Yasha Munk a publié deux articles très importants juste avant et juste après l'élection de Donald Trump aux États-Unis dans un journal une revue universitaire qui s'appelle précisément Journal of Democracy. Et dans ces deux articles, Yasha Munk se base sur des sondages très intéressants et très curieux et très révélateurs qui ont eu lieu dans tous les pays démocratiques de l'Union, de l'Europe et des États-Unis, enfin du Nord, d'Amérique du Nord, publié par le Pew Research Center qui est extrêmement sérieux. Voilà la question qui était posée. Seriez-vous favorable à un gouvernement dans lequel des experts non élus prendraient les décisions en accord avec ce qu'ils croient le mieux pour le pays at home,
pardon. Alors, traduction, non, qui non. peut traduire les propos qu'il est en train de lire, voilà. Brice Couturier?
Non. Alors, qui pense que c'est une mauvaise chose qu'un gouvernement d'experts prenne des décisions en dehors de tout contrôle populaire? Eh bien, aux États-Unis, vous en avez 58% qui pensent que c'est une mauvaise chose et 44% qui pensent que ce serait une bonne chose. En Hongrie, vous en avez 23% qui pensent que ce serait une mauvaise chose, mais 68% qui pensent que ce serait une bonne chose un gouvernement d'experts sans contrôle démocratique.
Oui, ça existe déjà, ça s'appelle
France, l'Europe. En France, vous avez 44% des gens qui sont de cet avis. Et la chose la plus préoccupante...
Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont élu Emmanuel Macron, Brice Couturier, ou...
Non, je ne répondrai pas à votre provocation. ce qui est préoccupant, si vous voulez, c'est que ce que montre ce sondage commenté par Yasha Munk, c'est que ce sont les plus jeunes et les jeunes élites éduquées, qui sont les plus favorables à des gouvernements d'experts non démocratiques, non élus, n'ayant pas de compte à rendre à la population. Ce qui montre un désenchantement, une désillusion à l'égard de la démocratie et de ses procédures, qui est beaucoup plus préoccupante que ce qu'on croit. Le malaise est très important et il n'est pas pris en compte. Regardez, les médias n'en parlent pas de ce sondage. Et vous connaissez pas Yasha Munk. Vous avez tort. C'est très important, Yasha Munk.
C'est un désenchantement ou c'est une méconnaissance, Pierre-Henri Tavoyot?
Mes connaissances de quoi
de ce qu'est la démocratie et de ce qu'est aussi l'absence de démocratie.
En fait, finalement, je reviens sur mes quatre moments. Les choses sont assez simples. Là, ce qui ne va pas dans cette affaire, dans cet gouvernement d'expertise, c'est qu'en fait, fondamentalement, personne n'en voudrait, au fond. On l'espère, etc., mais on n'en voudrait pas parce que on ne veut pas être gouverné, même au quotidien, par des experts. Mais du coup, on dit il ne faut pas d'experts. Alors, attention. Le point est essentiel. On veut des gens compétents. Mais il faut leur donner du temps. Le temps d'un mandat, on les laisse tranquilles, c'est-à-dire pas de contrôle pendant cette période, pas de contrôle continu. Et puis, au bout de 5 ans, on regarde. Ça s'appelle la reddition de comptes. C'est ce qui existait d'ailleurs à Athènes. Et Périclès était extrêmement stressé quand il devait rendre des comptes. Il y a des textes qui sont... Voilà, c'était pas un truc anodin.
Donc, supprime le Parlement, par exemple?
Non, pas du tout. Parce que
ça sert à plus à rien, le Parlement.
À part
voter les lois que décide
l'exécutif. Exactement le contraire. Justement, il faut... Alors, je reprends mes quatre étapes. Élection. Ça, c'est, on sait faire. On aime bien. Délibération, ça on sait plus faire, parce que la délibération c'est pas la discussion, c'est pas ce qu'on est en train de faire ici. La délibération c'est la discussion et l'échange pour la décision. Or ça, c'est un truc qu'on a totalement oublié. On délibère, on bavarde, on s'oppose, on s'indigne. Ah ça, on aime bien s'indigner. Mais délibérer sérieusement en ayant en tête la discussion. Voilà, moi je suis entré en philosophie politique avec Raymond Aron, qui avait cette phrase. Moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place du gouvernant? Voilà, ça c'est un truc qui est un fil conducteur pour l'intellectuel. Parce que c'est très facile de dire, voilà, de critiquer, etc. Mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Alors certes, on n'a pas toutes les informations, bien sûr, on n'a pas tous les éléments. Mais malgré tout, c'est ça qui doit guider, c'est ça la délibération. On n'est pas dans l'espace délibératif. On clique, on like, on s'indigne, on n'est pas dans l'espace délibératif. C'est pour ça que le Parlement doit retrouver ce rôle délibératif qu'il n'a plus. Il doit avoir une fonction diagnostique. Le député François Cornu-Gentil a écrit un livre excellent qui s'appelle « Gouverner ». Et de ce député dit, redonnons au Parlement une fonction diagnostique et pas simplement un enregistreur, comme vous le dites, de l'exécutif. Il faut redonner au Parlement cette fonction de prendre de la distance, de discuter des choses. Pourquoi on fait des lois? Est-ce qu'on pourrait ne pas en faire? Et une fois qu'on les a fait, est-ce que ces lois sont efficaces? Évaluation.
Mais on ne rend aucun compte pendant toute la durée du mandat.
Mais on ne rend pas compte pendant la durée du mandat. On est élu pour 5 ans. Voilà. Et les sondages ne sont pas...
En 5 ans, on a le temps de faire beaucoup de bêtises, on ne doit pas rendre de
compte.
Mais
bien sûr. Mais bien sûr. Mais de toute façon, ils en font et on fait beaucoup de bêtises en ne faisant rien. Donc je pense que pendant 5 ans, il faut ficher la paix. Alors ça veut dire que l'espace public va fonctionner. Bien sûr, les critiques existeront. Mais il n'y a pas de compte à rendre pendant 5 ans. C'est tout. Voilà.
Mais s'il n'y a pas de compte à rendre, alors puisqu'on s'intéresse ce soir au leader autoritaire et donc à l'autoritarisme, c'est-à-dire est-ce qu'on ne risque pas d'alimenter cette tentation qui est celle que quand on exerce l'autorité, on peut être très facilement, quel que soit d'ailleurs le régime, j'imagine, dans lequel on exerce, être tenté par l'autoritarisme. Anastasia Colosimo.
Bon, il y a une question philosophique derrière. C'est évident que le pouvoir appelle le pouvoir. Il y a même, je dirais, une dimension psychologique à votre question.
Oh là là. Je n'imaginais pas poser une question aussi simple, avoir autant de vertus.
Non, c'est certain. Ensuite, ce qui est certain aussi, c'est que il y a des systèmes qui sont plus ou moins immunisés contre l'autoritarisme. Il y a des systèmes qui, et d'ailleurs, il faudrait surtout pas mettre tous les régimes dont on discute aujourd'hui sur le même, sur le même plan. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont jamais connu la démocratie. La Russie, c'est un pays qui n'a jamais connu la démocratie. On veut pas qu'ils retournent à la démocratie. Ils n'ont jamais connu la démocratie. Donc eux, ils sont en train d'essayer de faire quelque chose. C'est pas génial. Peut-être qu'un jour, ils vont arriver à être démocrates. Par ailleurs, moi, je ne pense pas non plus que c'est l'alpha et l'oméga de tout, la démocratie. Je pense qu'il y a des vraies questions profondes sur ce système qu'il faut se poser. Et on peut privilégier d'autres systèmes. Il y a des monarchies aussi qui fonctionnent très bien. Et c'est pas parce qu'on est dans une monarchie que le peuple est moins entendu. Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a des pays qui sont des vieilles démocraties et qui ont des tentations, là, en ce moment, autoritaires. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait des institutions qui, justement, protègent contre ça. Alors, l'avantage de pays comme la France, par exemple, c'est qu'on a de très vieilles institutions, très bien installées, et qu'en fait, le dérapage autoritaire serait quand même très compliqué. Mais d'ailleurs, la construction, en fait, d'un État, c'est aussi ça. C'est-à-dire faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit la plus totale possible, faire en sorte que les élections soient vraiment transparentes, etc. Et en fait, mettre des garde-fous absolument partout, avoir des contre-pouvoirs très forts. Donc on est évidemment très, très inégaux face à cette possibilité d'un autoritarisme très fort.
Mais ça pourrait être quoi, un dérapage autoritaire dans le cadre institutionnel français?
Justement, je me demande, parce que je pense que c'est assez impossible, sauf à considérer... Et moi, par ailleurs, je ne serais pas très, très loin de ça, à dire que, justement, quand les contre-pouvoirs prennent trop de place et quand, en fait, la démocratie devient une oligarchie, là, on peut effectivement se poser la question de savoir où est-ce qu'est l'autorité et qui prend véritablement les décisions. Je trouve que dans le cas de l'Europe, au niveau européen, par exemple, c'est extrêmement sensible. Il y a une forme aussi d'autoritarisme en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est le peuple européen, s'il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle le peuple européen, qui décide. Le pouvoir, par exemple, des technocrates à Bruxelles peut être perçu aussi comme un certain autoritarisme, ou en tout cas comme une confiscation de la souveraineté populaire européenne.
Quand vous avez une législation d'exception qui était liée à l'état d'urgence et qui rentre dans le droit commun, est-ce qu'on n'est pas quand même là déjà dans cette espèce de dérapage autoritaire, Pierre-Henri Tavoyau, ou Brice Couturier, je ne sais pas lesquels des deux. Brice Couturier, allez.
Non, c'est votre tour. Moi, je voudrais insister sur une dimension, parce que moi aussi, je suis aronien comme Tavoyau.
Et vous voulez pas répondre à ma question, d'abord?
Attends, je voudrais
revenir en arrière. Que j'ai posée à Anastasia Colosimo.
Revenir juste en arrière sur un point, parce que c'est absolument décisif pour nous, les démocraties libérales. C'est que nous sommes dans une relation d'asymétrie avec les démocrature que vous avez caractérisée tout à l'heure. Nous sommes dans un rapport, aujourd'hui, l'affrontement commercial entre, par exemple, la Chine et les États-Unis préfigure un affrontement plus sévère, politique et peut-être un jour militaire entre les démocraties et les démocratures. Or, nous, les démocraties, nous sommes affaiblis.
Je ne vois pas le moment où tous les chefs de démocratures vont se mettre d'accord pour tuer toutes les démocraties.
Mon Dieu, entre la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine, ça a l'air de marcher plutôt bien. Entre la Corée du Nord et la Chine, les rapports sont quand même relativement étroits. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part
entre
un front
de
démocratie.
Entre la Corée du Nord et les États-Unis, ça se passe très bien aussi.
On est dans la situation que nous avons connue pendant la guerre froide. Nous sommes dans un rapport entre d'inégalité de fonctionnement entre des démocraties qui sont affaiblies de l'intérieur par leurs contradictions internes. Nous sommes affaiblis parce que nous avons des élections, parce que nous avons des oppositions, parce que nous avons des syndicats. En face, nous avons des pouvoirs relativement monolithiques qui disposent de l'outil militaire de manière absolument arbitraire. Et c'est un problème fondamental que nous avons déjà connu face au fascisme, que nous avons connu face au stalinisme et que nous allons connaître à nouveau aujourd'hui. La démocratie, quelque part...
Non, mais vous ne pouvez pas comparer... C'est pas possible de tout le temps sortir le petit foulard, attention, c'est les années 30, etc. Je ne pense pas qu'on puisse considérer... Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui et comparer ce qui se passe aujourd'hui avec, effectivement, des régimes auxquels on a beaucoup de reproches à faire. Ça peut être le régime russe, le régime chinois, le régime égyptien, ce que vous voulez. On ne peut pas comparer ça aux années 30 parce que c'est aussi ne pas prendre au sérieux dans les personnes dont on sait, dans nos propres démocraties libérales, qui peuvent avoir une tentation de ces démocraties et qui voient là-dedans peut-être une solution au problème, qui voient que les démocraties libérales aussi sont en échec. Ça n'est pas prendre au sérieux aussi leurs réclamations. On ne peut pas juste dire « tous ceux-là sont des méchants ». Bientôt, il va y avoir une troisième guerre mondiale où les démocrates vont affronter les antidémocrates. Parce qu'il faut prendre au sérieux aussi le fait que dans nos démocraties libérales, et moi je pense que c'est parce qu'elles sont trop libérales et pas assez démocrates, et que c'est ce problème-là qu'il faut affronter. Et ne pas discréditer d'emblée un tas de régimes qui, par ailleurs, aussi correspondent à des moments historiques qui ne sont pas les nôtres.
Anastasia Colosimo, la prise en compte des demandes, par exemple, de la population chinoise, je ne suis pas sûr que ça soit pris en compte aujourd'hui
je revenais à ce que disait Sarkozy, et qui est que dans nos démocraties libérales, il y a aussi un tas de personnes qui sont fascinées par des figures comme Poutine, qui sont fascinées par justement ces grands chefs. Et donc, ce que je dis, c'est que
De gens qui sont fascinés par Poutine, excusez-moi.
Brice Couturier s'adresse à la salle là, qui est au salon.
Beaucoup de gens
sont
fascinés par Poutine et ont envie d'un régime.
Bah oui, il y en a, et ils lèvent le doigt. Ouais. Donc, bon, ça veut bien dire.
Il y a trois mains qui se lèvent.
On n'est pas dans la question. Globalement,
c'est plutôt hostile.
Un vote. Anastasia Colosimo, poursuivez, parce qu'on n'entend pas le public à la radio.
Non, mais donc, la volonté d'avoir un chef fort, la volonté d'avancer vite. La volonté aussi de faire les gros bras au niveau international. Les gens, quand même, ont envie de ça. Donc la manière dont ils se projettent dans les grands chefs de ces démocratures parle aussi de nos échecs et doivent quand même nous éclairer sur la manière dont on doit répondre à ça, je le pense vraiment.
Pierre-Henri Tavoyau.
Je pense que le point clé, c'est de dire, et c'est ça la limite entre une démocrature ou une démocratie libérale, c'est est-ce que l'autorité va au rebours de la liberté ou est-ce que l'autorité protège la liberté? C'est ça le critère, en fait. Et ce qui me paraît être important, et la reconquête que les démocraties libérales doivent faire, c'est qu'elles ont extraordinairement libéré la liberté, si je puis dire, et les droits des individus, et qu'elles doivent reconquérir une autorité qui protège les libertés. C'est extrêmement simple, en vérité. C'est ça le critère, et c'est le seul. Et donc, par rapport à des régimes qui, effectivement, disent « il faut qu'on soit efficace, donc au nom de cette efficacité, nous allons mettre en péril les libertés, etc. » Donc, voilà, c'est cet idéal d'un rééquilibrage entre liberté et autorité. D'autant que, j'insiste sur un point, c'est très important, l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Il existe du pouvoir sans autorité, de l'autorité sans pouvoir. Donc il ne faut pas confondre. L'autorité, c'est d'une certaine façon l'augmentateur du pouvoir, ce qui permet à un pouvoir de durer, ce qui permet de susciter au fond l'obéissance volontaire, c'est-à-dire ce qui fait qu'on obéit volontairement.
Mais cette reconquête de l'autorité, Pierre-Henri Tavoyau, elle est liée à quoi? Une forme de talent individuel à exercer l'autorité, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui serait d'ordre plus structurel? C'est-à-dire il faut changer la façon de faire fonctionner les institutions, notamment, et les délibérations.
C'est une vraie question, mais je pense qu'il y a trois éléments qui permettent de refonder l'autorité démocratique, et qui font assez consensus. L'autorité à l'âge démocratique, quand elle tombe pas du ciel, si je puis dire, c'est à la fois, un, de la compétence, c'est-à-dire on demande effectivement que les gens connaissent leur dossier, comme on dit, mais ça suffit pas, hein, parce qu'on se méfie du gouvernement l'expertise. Deuxièmement, c'est en effet une dimension charismatique. Ce point dont on a beaucoup de mal à penser dans l'univers démocratique, hein, le charisme, parce que, vous voyez, tout le monde veut être leader, mais quand on traduit leader en allemand, ça donne fureur et c'est tout de suite beaucoup moins sympathique. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc ça, c'est le charisme et pas le gourou. Et puis la troisième forme d'autorité, qui est l'autorité fondamentale, c'est l'autorité du service, l'autorité de la sollicitude, enfin de l'attention à l'autre. Réfléchissez à ce point que ce qui fait le plus autorité dans le monde démocratique, c'est la souffrance. La souffrance fait autorité, on s'incline tous, à tel point d'ailleurs que ça peut susciter la pire des démagogies. Je souffre, donc j'ai des droits. Donc au fond, l'autorité, la bonne autorité démocratique, et c'est ça le critère, c'est l'autorité qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. C'est ça la bonne autorité, et il n'y en a pas d'autre. C'est pas une autorité qui infériorise, qui déstabilise, c'est cette autorité qui permet de faire grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet, et ça c'est une autorité démocratique.
Est-ce que tu aurais...
C'est la paternité aussi.
Moi, je voudrais conclure avec le général de Gaulle que je citais tout à l'heure dans Le Fil de l'Épée. Le général de Gaulle dit quelque chose d'extraordinaire dans Le Fil de l'Épée qui m'a pas frappé quand j'avais lu la première fois. Il dit, le chef doit savoir montrer son caractère jusqu'à la désobéissance. C'est très étonnant de sa part, mais ça explique aussi juin 40. Lorsqu'il juge que les circonstances l'exigent, et il cite un ministre anglais qui disait d'un amiral, il a toutes les qualités de Nelson, sauf une, il ne sait pas désobéir. Et pour De Gaulle, il est important que le vrai chef militaire, comme le vrai chef politique, soit quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, sache désobéir à ses supérieurs. C'est ce qu'il a fait en gagnant Londres en juin 40, plutôt que d'obéir au maréchal Pétain, il a bien fait.
Oui, mais quand on est chef, Brice Couturier, et qu'on n'a plus que des inférieurs, elle sert à quoi la désobéissance? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aussi être capable, quand on est chef, de désobéir à ceux qui vous ont amené au pouvoir?
Eh ben, pourquoi pas? Il y a des moments où effectivement les opinions publiques se trompent. Il y a des moments où les opinions publiques veulent la paix à tout prix en 1938 et applaudissent les ministres qui se rendent à Munich pour se plier aux injonctions d'Adolf Hitler. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils ont eu tort. Eh ben, c'est ceux qui disaient qu'ils ont eu tort qui avaient raison.
Anastasia Colosimo, ce sera la conclusion.
Oui, je pense qu'il y a une grande volonté d'objectivité aussi dans une démocratie libérale. Et on a parlé du charisme. Je pense que la politique est quand même toujours avant tout une politique de sentiments. Je pense que le fait de vouloir être incarné dans une personne charismatique, c'est pas non plus un péché. Ensuite, évidemment, ça ne veut pas dire que la démocratie doit en pâtir, mais il faut aussi que nous, on se ressouvienne un peu que, encore une fois, la politique, c'est aussi la politique des sentiments.
Eh ben, merci
et
beaucoup.
Et des émotions.
Et des émotions. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pierre-Henri Tavoyot, Anastasia Colosimo et Brice Couturier, En cherchant bien, en cherchant peut-être pas tant que ça. D'ailleurs, on trouvera les ouvrages respectifs des uns et des autres, puisque je le rappelle, nous sommes au Salon Livre Paris. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richer, Leïla Saïdi, Livia Garrigue et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa. Avec à la prise de son Élise Leu, Emmanuel Morse-Vincan et Martin Guénard.